16h-17h, Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. À partir de plusieurs dates clés de sa vie, il va vous raconter son parcours, ses passions et son histoire. Mais les clés d'une vie, ce sont aussi d'autres histoires liées à mon invité et à votre vie. Allez, grâce à ces clés, j'ouvre maintenant la porte à nos souvenirs. Avoir écouté une radio un matin lui a permis d'être diffusé sur toutes les autres pendant des jours et des nuits. Il a un jour décidé de s'éloigner des vagues d'applaudissements pour vivre dans des eaux beaucoup plus calmes. Ce choix volontaire a visiblement porté ses fruits. Après des années passées dans des paradis, il a toujours une pêche d'enfer. Bonjour Antoine.
Bonjour Jacques, bonjour tout le monde.
Et c'est vrai que vous avez une pêche d'enfer en permanence, toujours le sourire, le rire.
Ah ben oui, mais on est là pour avoir la pêche, non? On est là pour sourire, on est là pour être heureux.
Voilà, alors nous on est heureux de vous avoir parce que c'est vraiment une escale à Sud Radio, parce que vous êtes très peu en France, vous êtes plutôt du côté de la Polynésie.
Oui, ça fait quelques années que je suis surtout dans le Pacifique, mais c'est toujours un plaisir de revenir en France.
Alors là, vous revenez parce qu'il y a un livre qui sort, Escale en Polynésie, on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, on va évoquer des dates de votre vie qui sont des moments clés. Et le premier moment clé, alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le 4 novembre 1964, Antoine.
Le 4 novembre 1960, c'est une chose qui m'est arrivée à moi.
Non, c'est la sortie d'un film. Un film qui a beaucoup compté pour vous.
Oui.
Un film qui est une référence que vous avez eu du mal à voir d'ailleurs.
Oui.
Au cinéma.
Et que j'aimerais bien retrouver d'ailleurs. Si, ouais. C'est, si c'est lui que je pense.
C'est quel film?
C'est le Monsieur de compagnie.
Exactement, un film de Philippe de Broca avec Jean-Pierre Cassel.
Jean-Pierre Cassel. Malheureusement, il semble que ce film ait disparu totalement, que personne n'en ait gardé une copie. Alors, si jamais quelqu'un a une idée d'où trouver ce film, qu'il me le fasse savoir.
Parce que ce film est très important pour vous. D'abord, le personnage principal s'appelle Antoine.
Oui.
Et ce film était un déclic dans votre vie, au-delà de votre carrière, Antoine.
Voilà, c'était une comédie, hein. C'était une fantaisie très amusante, un petit peu une petite couillonnade, quoi. Mais c'était très, très, très joli. Et il y avait le héros, qui s'appelait Antoine, qui découvrait pas seulement l'art de ne rien faire, mais qui arrivait à rencontrer le monde entier, à être aimé du monde entier, parce que justement, il avait choisi de sortir des sentiers battus, quoi. Alors lui, il le faisait, il avait par exemple publié un livre où toutes les pages étaient blanches. Il avait un très gros succès grâce à ça. Et toutes ces rencontres, et puis, il y avait une très belle histoire d'amour en plus avec Catherine Deneuve. Et donc, c'était un film qui m'a beaucoup frappé, c'est
et
vrai.
Et pourquoi? Parce que ça a un peu déclenché votre envie de vivre autrement, toi?
C'était à une époque où moi, j'étais sur fin 64, j'étais encore sur des rails tout tracés d'élèves ingénieurs, et puis j'allais devenir ingénieur, donc avoir une vie tout tracée, peut-être une vie prospère, peut-être gagner beaucoup d'argent, peut-être voyager beaucoup aussi, mais pas librement, quoi. Et la liberté de ce film s'est mêlée à d'autres films, mais celui-ci a été très important.
Et ce film, vous avez eu du mal à le voir parce que la caissière du cinéma vous a refusé l'entrée un mardi soir.
Ah ben, j'avais déjà vu une ou deux fois quand il est sorti, et puis quelques années après, il passe par hasard, je passe un mardi soir sur les Champs-Élysées, et il jouait ce film, je dis, bon sang, je vais le voir tout de suite. Et il était 10h05, la dernière séance, après c'était fini, le film repartait dans les limbes. Et la caissière voulait pas dire, j'ai fermé ma caisse et tout, non, pas question, je suis rentré quand même, elle a appelé la police qui est venue me faire sortir de la salle. On a fini par téléphoner au direct propriétaire de la salle qui a dit, oui, ben, laissez-le rentrer, il viendra payer sa place demain. Et comme ça, j'ai pu revoir ce film, et j'ai bien fait parce que depuis, il a disparu. J'ai même demandé à Jean-Pierre Cassel, il y a longtemps, à De Broca, personne n'a gardé une copie de ce film.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce film est adapté d'un roman d'André Couteau, et que ce André Couteau, totalement oublié aujourd'hui, était le fils d'un armateur. Donc il y avait déjà un côté navigation,
oui.
Alors, il y a aussi au cinéma les actualités qui vous ont fait découvrir le monde des beatniks, avant qu'on en parle, Antoine.
Oui, ben c'est un petit peu plus tard quand même. Ça, c'était début 65. C'est vrai qu'il y avait des actualités au cinéma. Maintenant, ça n'existe plus, ça.
Non.
C'était en noir et blanc, bien sûr. C'était les pâtés, actualités, tout ça. C'était un peu, il n'y avait pas de télévision, pratiquement pas de télévision à l'époque. Le journal télévisé, c'était léger. Donc les actualités, et je vois un documentaire sur les premiers beatniks qui allaient quémander une soupe populaire à l'abbaye de Cluny, à Paris, vers Saint-Germain-des-Prés. Et j'y rencontre une jeune, j'y vois dans ce film sur une jeune femme que j'avais rencontrée, avec qui j'avais passé une soirée quelques semaines avant, qui disait qu'elle voulait quitter le système. Moi, j'en doutais un peu. Et puis tout d'un coup, je la vois dans ça, dans ce monde-là. Et tout d'un coup, ça m'a frappé. Je suis allé voir de quoi il s'agissait. Quoi. Je me suis retrouvé sur les d'autres périphéties. Je me suis retrouvé sur les quais du Vert-Galant, où il y avait à l'époque tous les beatniks qui jouaient de la guitare et les voyageurs qui venaient de toute l'Europe ou d'Amérique. Et c'est comme ça que j'ai gratté pour la première fois la guitare dans les rues et que ça m'a ouvert un univers beaucoup plus vaste que celui qui m'attendait à l'école centrale.
D'ailleurs, le Vert-Galant, c'est non seulement le surnom qu'avait Henri IV parce qu'il avait 73 maîtresses, mais je sais pas si vous le savez, mais le Vert-Galant, c'est aussi un yacht qui a été construit, un yacht à voile construit en 1933, qui a été classé monument historique en 1993 et qui est aujourd'hui ancré à Noirmoutier.
Ah, ben j'aimerais bien le voir, j'aimerais bien le voir, parce que c'est un endroit, le Vert-Galant est un endroit qui, je n'ai pas eu 73 maîtresses, non?
Mais beaucoup plus.
Beaucoup plus que ça. Par contre, le Vert-Galant est un endroit qui m'a toujours parlé à Paris.
Alors justement, pour celles et ceux qui écoutent Sud Radio qui ne sont pas à Paris, le long des quais de la Seine, pas loin de Saint-Germain-des-Prés, on descend, il y a une promenade qu'on appelle le Vert-Galant, avec la statue d'Henri IV, et c'est là où vous avez commencé à jouer de la guitare à l'heure des premiers disques en 1975.
Et j'y ai écrit plus tard, quelques années plus tard, une jolie chanson qui s'appelle Le petit escalier,
l'eau a monté plus le Saint marche.
Voilà, qui expliquait que les crues venaient du fait qu'une femme que j'avais fait sans le vouloir pleurer avait tellement pleuré que le niveau de la Seine avait monté. Et c'est drôle, c'est qu'il y a quelques mois, quand il y a eu les crues de la Seine, les crues à Paris, eh bien, j'étais pas là, mais on m'a dit que une radio avait pris un extrait de cette chanson et la passer en boucle au moment des crues de la Seine.
Alors, au départ, vous ne pensiez pas chanter. La seule expérience que vous ayez eue à la radio, c'est pour aller emprunter des disques dans une station de radio complémentaire et amie, Europe numéro 1 pour ne pas la citer, pour le bal de l'école centrale dont vous étiez le DJ.
Voilà, c'est ça. Bon, c'était pas le DJ parce qu'il y avait beaucoup de... Le bal comprenait beaucoup de salles. Et moi, pour certaines salles, on m'avait proposé d'aller chercher de la musique. Et je m'étais pas dégonflé, j'étais allé à Europe 1. J'avais dit, est-ce qu'on m'autorisait à copier sur des bandes magnétiques? À l'époque, il n'y avait pas de cassettes, rien du tout. Sur des grandes bandes magnétiques, m'autorisait à copier votre discothèque, enfin des disques. Et comme ça, c'est la première fois que je mettais les pieds dans une radio, en fait.
Oui, vous seriez venu à Sud Radio, on vous aurait fait le même service, on vous aurait rendu le même service.
Oui, à l'époque, il aurait fallu aller à Andorre, je crois, non? Non, c'était pas...
Ou dans
le Sud-Ouest.
Enfin, là, on est dans toute la France et c'est le plus important. Alors, l'école centrale, c'était pas vraiment votre truc au départ?
J'y étais parce que j'y suis rentré parce que mon père était ingénieur, j'étais bon en maths et en physique, il était normal que j'aille à l'école centrale, quoi. Mais j'ai très vite vu que ça serait pas réellement ma vie, quoi. C'était que j'avais d'autres objectifs.
Vous êtes sorti en 1966 et dans vos camarades de promotion, il y a Jean-Pierre Le Dantec.
Oui, Jean-Pierre Le Dantec est un des garçons qui sont illustrés 2 années plus tard sur les barricades à Saint-Germain-des-Prés pendant mai 68, quoi. Jean-Pierre Le Dantec, oui.
C'est-à-dire qu'il a dirigé la cause du peuple, voilà, qui était un journal maoïste interdit par le ministre de l'Intérieur.
Voilà, c'est ça. Et à l'époque, il a été succédé par Sartre. Voilà, Sartre, qui a ensuite distribué dans les rues le journal La Cause du Peuple.
Et vous êtes surpris de voir ce garçon que vous connaissiez à l'école centrale devenir un maoïste pur et dur?
Oui, mais à l'école centrale, il y avait quand même quelques figures, hein. On se rappelait le passage de Boris Vian.
Oui.
Boris Vian, qui avait bien marqué l'école centrale. J'avais un autre copain qui arrivait à moto, en pétaradant dans la cour de l'école, et qui devait partir faire un tour du monde en solitaire, bien avant que j'y pense moi-même. Et il y avait des personnages assez amusants. Bon, il y avait des grands noms comme Eiffel, par exemple, hein, à l'école centrale. Mais enfin, je regrette pas du tout l'école, j'y ai appris à apprendre, mais j'aime beaucoup plus la vie que j'ai menée depuis, que ce que j'aurais pu faire avec l'école.
Je comprends, Antoine, on va de toute façon reparler de votre vie avec une autre date dans quelques instants, le 25 mai 1966, avec Antoine sur Sud Radio.
16h-17h, Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Antoine. Elle réveille des souvenirs chers à votre cœur et au nôtre, Antoine bien sûr, mais aussi des souvenirs chers aux auditrices et aux auditeurs de Sud Radio à travers une date, 25 mai 1966.
25 mai 1966, alors là c'est une émission de télévision dont j'ai regretté qu'elle se soit produite. Parce que à l'époque, je venais de publier mon premier succès, qui était Les Élucubrations, ma mère oui. Marie-Antoine, et j'allais faire un couplet où je mettais en boîte Johnny Hallyday. Je le mettais, proposé de le mettre en Cage à Medrano.
J'étais né comme ça.
Et moi, j'étais un fan de Johnny. Oui. Moi, j'avais fait la queue devant un théâtre à Grenoble pour avoir un autographe de Johnny. Je connaissais toutes ses chansons. Il m'avait réveillé un peu. Il avait participé à me réveiller, comme le film dont on parlait tout à l'heure. Il m'avait à me réveiller de ma torpeur étudiante, comme ça. Mais je trouvais que ça aurait été marrant de voir Johnny Hallyday en Cage à Medrano. C'est tout. C'était pas du tout agressif, quoi. Et cette chanson a commencé à passer à la radio. Et un matin, quelques jours avant la date que vous citiez, à Marseille, j'étais parti faire mon premier gala. Première fois que j'étais payé. On me payait pour chanter. C'était totalement incroyable. Et je sors de la boîte où je chantais et je rentre à l'hôtel où on m'avait logé. Et le concierge me dit, il y a votre copain qui est là. Je dis, copain, oui, Johnny. Ah bon? Moi, aucun problème. Je vais voir Johnny dans la boîte de nuit, vers Johnny. Salut, Johnny. Et il me dit, écoute, j'adore ta chanson, qui était sortie 15 jours avant, quoi. Hein. J'adore ta chanson. D'ailleurs, regarde, j'ai une chemise à fleurs. Et il avait une chemise à fleurs. Et puis, ça aurait dû rester comme ça. Nos relations auraient dû rester comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que le succès de ma chanson a été tellement énorme, tellement immense dans les semaines qui ont suivi. Je suis passé, moi qui étais inconnu 15 jours avant, je passais à l'Olympia au mois d'avril, quoi. C'était invraisemblable que des gens autour de lui ont commencé à lui dire, tu vas pas laisser quand même ce mec que personne connaît, t'agresser, t'attaquer. Et petit à petit, il s'est laissé convaincre. Et tout d'un coup, il a fait une chanson où il me mettait en boîte, qui s'appelait Cheveux longs, idées courtes. Et donc, l'émission en question, ça a été exactement ce que je souhaitais pas. C'est ce fourbe de Albert Reisner, qui était un de ceux qui avaient les seules émissions de télévision de variété à l'époque, quoi. Il y avait Averti qui faisait des très bonnes émissions. Et donc, ce fourbe d'Albert Reisner m'invite. Et je lui dis, mais moi, je veux pas être face à Johnny, j'ai pas d'inimitié, hein, et tout. Il me dit, non, vous serez pas ensemble, vous êtes chacun de votre côté, tu parles. J'arrive sur scène, c'était en direct, et je me retrouve à côté de Johnny. Enfin, d'un côté de lui, il y avait Johnny, de l'autre côté, il y avait moi. Et Johnny, du coup, bien monté par ses collègues, etc., m'attaque bille en tête, voilà. Et donc, il y avait un ring, mais j'y étais pas opposé à Johnny, j'ai chanté une chanson avec les problèmes de mes musiciens, et puis chacun a chanté sa chanson, et c'était une espèce de guerre. Ça a été le summum de cette espèce de guerre, quoi. Quelques jours après, on s'est rencontrés avec Johnny dans une boîte, encore, toujours une boîte, et on a dit, mais c'est ridicule de se battre comme ça. Entendons-nous sur ce qu'on peut dire ou pas dire à la radio ou à la télé, et puis on n'a plus de problème. Voilà.
Il n'y a pas eu de problème.
Il n'y a plus jamais eu de problème. Mais c'est vrai que cette date que vous citez, cette date-là, eh ben, ça a été une soirée pas agréable, quoi. C'est moi qui suis quelqu'un qui aime bien tout le monde. Par la suite, j'ai essayé de me battre pour être toujours l'ami des gens. Là, on m'avait mis sur une voie d'agressivité où je me reconnaissais pas, quoi.
En tout cas, Albert Reisner et Antoine ont un point commun, c'est l'harmonica.
L'harmonica, sauf que lui jouait surtout de l'harmonica chromatique, et tandis que avec un bouton sur le côté, tandis que comme tous les bluesmen et tous les folk singers, dont Dylan qui vient d'avoir le prix Nobel, bravo, eh bien nous jouions de l'harmonica diatonique sans bouton sur le côté.
Vous avez appris où et comment l'harmonica, Antoine? C'est venu pour la chanson ou c'est venu un petit peu avant?
C'est venu un peu avant. Ben, j'adorais le folk, j'adorais Dylan en particulier. Je savais pas, j'adorais les Stones, j'adorais les Yardbirds, enfin toutes sortes de groupes qui utilisaient l'harmonica, qui venaient du blues, quoi, qui venaient des bluesmen américains. Alors c'est un copain de l'école centrale, mon camarade de chambre qui a écrit des musiques de plusieurs chansons pour moi à l'époque, François Renoux, qui m'a expliqué comment on jouait de l'harmonica. J'ignorais même qu'il y avait des tonalités, mes connaissances musicales étaient très légères, mais donc j'ai appris. J'ai jamais été un virtuose, mais ça a fait partie de ma vie et j'ai toujours eu plaisir de voir Dylan 50 ans plus tard, toujours avec son harmonica.
Et Dylan vous a marqué, ça fait partie des gens qui sont importants pour vous, Antoine.
Ah oui, Dylan m'a marqué plus que les grands écrivains, les grandes pointures littéraires françaises, hein, c'est clair.
Et d'ailleurs, Dylan, Hugo Frey, c'est son lié à travers les traductions de chansons. Vous aussi, Antoine, vous avez voulu peut-être un jour faire des traductions de chansons de Bob Dylan en
français.
C'est
ça, ben j'avais proposé. J'étais tellement fan de Dylan que j'avais traduit pour mon usage personnel une quinzaine de ses chansons, dont des peu connues comme Gates of Eden. Et j'avais proposé à Hugo Frey, mais Hugo Frey était déjà en contrat avec Pierre Delanoë, donc mes adaptations ont disparu. Voilà.
À l'époque, les émissions de télévision se ne déroulaient pas encore sur les grands plateaux. On en faisait au Golfe de Rouault, au Moulin de la Galette et à la Cité Universitaire. En tout cas, c'était le cas de Achetant la Tête de Bois.
C'était à la Cité. Non, c'était.
Au Moulin de la Galette.
Moulin de la Galette, c'est. Oui, c'est Moulin de la Galette, oui, c'est
y
ça.
Il
voilà.
y avait les trois. Et voilà. Le Moulin de la Galette est voilà. un lieu où il y a aujourd'hui le dernier moulin et un cinéma de Claude Lelouch. Voilà. Et à l'époque, la télévision se déroulait là-bas. C'était voilà. une autre époque. C'était beaucoup plus calme, beaucoup plus amusant qu'aujourd'hui.
Ma toute première télé, je l'avais faite à Cognac G. C'était les élections, la nuit des élections 64, 65. La nuit de, je crois que c'est l'année où ils ont dit non à De Gaulle ou à peu près quelque chose comme ça. Et c'était en 1965. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait peu d'endroits. Il y avait pas des grands studios de télé comme il y a eu par la suite.
Et Cognac G, est-ce que vous saviez ce que c'était avant d'être un studio de télévision?
Non.
C'était un music hall et ensuite une maison de retraite.
Ah non, bon.
Et c'est devenu ensuite, pendant la guerre, avec les Allemands, un studio de télévision que les Allemands voulaient développer. Puis après, à la libération...
Il est resté le studio. Ah
ouais. Il est resté le studio, on l'a gardé pour la télévision.
Je sais que Michel Drucker a fait ses débuts là-bas aussi.
Voilà. Alors, est-ce que vous pensiez que 50 ans après, les élucubrations seraient encore dans toutes les oreilles, Antoine?
Je ne sais pas, parce qu'elles étaient dans les toutes les oreilles il y a 50 ans, mais il y a toujours de la place pour... on attend toujours, je suis toujours à l'affût de quelqu'un qui soit aussi... qui se pointe avec une chanson et des paroles aussi incisives et qui frappe comme ça. Cette chanson avait frappé, quoi. Cette chanson avait... Incroyablement, elle a frappé. C'est au point que 50 ans après... c'était il y a quelques années, mon fils m'a amené son cours de terminale, son cours d'histoire de terminale, où il y avait les paroles de ma chanson. C'était quand même assez extraordinaire.
Et alors, il y avait les paroles, il y avait une explication du professeur, ou alors on demandait de commenter?
Voilà, on demandait aux élèves de commenter un petit peu ce qui s'était passé, comment dans ces années-là, les jeunes, tout d'un coup, avaient émis des revendications, quoi. Puis pas seulement les jeunes, c'était la société. Je réclamais la pilule dans les monoprix. Je pense pas... Honnêtement, c'est un peu immodeste, je pense pas qu'il y ait eu une autre chanson qui soit autant en prise directe avec la société du moment que celle-là, quoi. Il y a eu d'autres, toutes sortes de gens. Bon, il y a eu les folk singers, les protest singers, enfin, comme Dylan à l'époque. Mais je crois pas qu'en France, il y ait eu une chanson aussi liée à ce qui se passait dans la société, quoi.
Il y a eu une autre chanson étudiée en classe, c'est par Hervé Christiani qui nous a quitté, hélas. Et il avait écrit Il est libre, Max. Et voilà. Un jour, son fils lui amène Il est libre, Max. Il doit faire un commentaire à l'école. Donc, Hervé Christiani fait le commentaire. La copie est revenue. 4 sur 20 n'a rien compris à la chanson.
c'est lui-même qui a écrit, oui.
Voilà.
Vous n'avez pas compris le propos de l'auteur.
Voilà. Alors, et les chemises à fleurs, est-ce que ça reste d'actualité pour vous?
Ah ben, les chemises à fleurs, j'avais découvert ça en 66, et puis j'avais abandonné ça. À un moment, j'étais parti plus avec... Quand je suis parti en bateau, j'étais en pull marine, et puis un jour, je suis arrivé à Tahiti. Et là, j'ai vu que là-bas, c'est une institution. On y voit même les ministres, les membres du gouvernement et tout, faire leur discours en chemise à fleurs. Alors, je suis arrivé à l'endroit qu'il faut. Et depuis, j'en suis plus jamais ressorti, quoi. J'ai une belle panoplie de chemises à fleurs qui viennent pour la plupart de Tahiti.
En tout cas, vous êtes un artiste de bonne tenue, et pas seulement à la télévision ou au micro. On va en reparler dans quelques instants à travers une autre date. Antoine, le 6 janvier 1971. À tout de suite sur Sud Radio.
16h-17h, Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Antoine. Elle réveille des souvenirs chers à votre cœur, Antoine, mais aussi des souvenirs chers aux auditrices et aux auditeurs de Sud Radio et même aux téléspectateurs. Car je vais parler d'une date liée à la télévision, le 6 janvier 1971. Et là, je ne m'adresse pas au chanteur Antoine, mais à l'animateur Antoine.
Eh oui, c'est la date où j'ai failli devenir Michel Drucker.
Ouais,
j'ai failli devenir. Mais c'est-à-dire que il me serait jamais venu à l'idée de présenter des émissions de télévision quotidienne ou hebdomadaire. J'étais plutôt chanteur. J'avais déjà découvert le bateau. Je savais que dans quelques années j'allais partir. Et un jour, je reçois un coup de téléphone me demandant de rencontrer un grand producteur de télévision de l'époque. Et je pensais qu'il allait me proposer de faire un spectacle musical. Non, il me demande si je voulais remplacer Jacques Martin en compagnie de Daniel Gilbert, pour animer Midi Magazine. Ça s'appelait Midi Magazine.
Qui était l'émission du l'heure du déjeuner.
Voilà. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait pratiquement qu'une chaîne de télévision. Il y avait une deuxième chaîne couleur, mais que peu de gens recevaient. Il y avait tout le monde à midi, tous les gens qui avaient la télévision regardaient Daniel Gilbert et Jacques Martin. Voilà. Et donc, on m'a proposé d'animer cette émission. Et ça a été un grand succès. Alors que tous les autres qui avait essayé de remplacer Jacques Martin, qui avait son esprit très particulier, son grand talent, et ben tous les autres s'étaient vraiment cassé la figure, quoi. Entre autres, je me rappelle un jeune garçon qui était arrivé, qui avait été essayé comme ça, qui a essayé et qui s'était fait jeter, qui avait été refusé totalement, et qui s'appelait Michel Colucci. Coluche, voilà.
Et oui, ça n'a pas duré longtemps.
Voilà, il a fait une journée et c'était fini. Et moi, j'ai fait ça pendant 2 ans, régulièrement, je revenais et j'étais devenu... Du coup, ça m'a amené à présenter des télédimanches, des grandes émissions du soir, etc. et tout. Et souvent, je disais ça à Michel Drucker, je disais, des années après, je disais, peut-être que si j'avais choisi de ne pas partir en bateau, peut-être que j'aurais fait un parcours comme le tien, quoi. Et... voilà, c'était une date assez amusante.
Mais comment est venue l'idée à Georges Holgoas, qui était le producteur, de vous engager à la place de Jacques Martin, Antoine? Parce qu'on n'imaginait pas ça.
Ben, je ne sais pas. Il avait de l'imagination, je ne sais pas. Moi, c'est vrai qu'après avoir démarré avoir été présenté comme un révolutionnaire, comme un révolté, etc., je disais tout à l'heure, j'étais pas du tout quelqu'un de hargneux ni de réellement révolté. Moi, je voulais m'entendre bien avec tout le monde. Je voulais avoir une vie douce et avoir des bonnes relations avec les gens, quoi. Et j'avais dû me battre parce que on m'avait trop présenté comme un agressif. Donc, j'avais choisi la gentillesse. Et c'est peut-être pour ça qu'il m'a proposé là. Et j'en ai un très bon souvenir. Très, très bon souvenir.
Vous avez même fait l'Olympia avec Daniel Gilbert.
Et oui, l'Olympia, c'était pas Daniel Gilbert. L'Olympia,
c'était Rina
Ketty. Non, pas Rina Ketty, c'était, comment s'appelait-elle? Rikita, Jolie Fleur de Java.
Rina Ketty.
Non, Georgette Plana.
Georgette
Plana, voilà.
c'était la même génération. Georgette Plana, Petite Fleur de Java. Mais vous avez fait un disque avec Daniel Gilbert.
Voilà, il a enregistré une chanson avec Daniel Gilbert, et en plus, on est parti en tournée à la suite du succès de Midi Première, c'était devenu Midi Première, et on est parti en tournée ensemble, et avec Daniel Gilbert, on chantait excusez-moi, monsieur Antoine. c'était mignon.
Alors surtout, vous avez même fait un cabaret parisien.
Avec les Frères Ennemis. Deux humoristes de l'époque, et qui étaient très très drôles, et qui avaient écrit un sketch spécialement pour ça. Donc, comme ça, un spectacle assez marrant, où tout le monde intervenait, y compris le public.
C'était à la Tête de l'Art, un grand cabaret.
À la Tête de l'Art.
Un cabaret parisien, vous jouiez Minuit Magazine avec Daniel Gilbert.
Voilà.
Mais elle s'est aussi essayée au théâtre, mais ça a eu moins de succès. Elle a fait une pièce qui s'appelait La Rose et le Chou-fleur. Et à la sortie de la première, Thierry Leluron, qui ne manquait pas d'esprit, a dit, le gratin est dans la salle et le four est sur scène. Ce qui n'était pas très très gentil.
C'est pas très gentil. Non.
Alors, j'en reviens à cette époque bénie de 66. Il y a une photo historique dans Salut les copains où on voit toutes les stars de la chanson posées. Et la couverture de ce numéro, c'est Antoine sur les Champs-Élysées.
Ah oui, c'est une photo hallucinante. Hein. C'était une idée de Jean-Marie Perrier. Une idée extraordinaire de Jean-Marie Perrier. Il m'avait amené sur les Champs-Élysées avec un tapis, un fauteuil. Voilà, c'est une...
Et un chien.
Et un chien, oui, et un chien. Et on voit un gendarme qui passe à côté, qui regarde ça avec stupéfaction. À l'époque, on n'avait même pas demandé d'autorisation. On s'était installé, on avait fait une photo. Essayez de faire ça maintenant.
C'est impossible.
Essayez de faire la même chose aujourd'hui.
Et cette photo des stars de la chanson, vous y étiez aussi?
J'y étais aussi, oui. On était à côté de Françoise Hardy.
Et il y avait Johnny Hallyday. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que Johnny était un peu plus haut que les autres. Et comme on avait mis une échelle,
voilà,
sous
comme
lui.
Jean-Marie avait mis comme ça, négligemment, il avait laissé traîner une échelle. Puis il avait suggéré à Johnny de monter de 2 marches comme ça pour être monté, que c'était lui le roi de l'époque du yéyé, quoi. Mais moi, j'arrivais un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles dans l'époque du yéyé. J'étais pas un yéyé. Moi, j'étais autre chose, quoi. On voit d'ailleurs que je fais un peu la gueule sur la photo.
Alors, en revanche, vous ne faites pas la gueule lorsqu'on vous appelle pour chanter en Italie au festival de San Remo, Antoine.
Ah ben, ça, c'était une aventure. Moi, j'y suis allé parce qu'on mangeait des pâtes. On mangeait des pâtes avec des truffes blanches et qu'on allait voir l'Italie qui faisait bon sur la côte. Et puis, ça m'a amené à un succès encore plus fort qu'en France et qui a duré 5 ans avec des gros succès que je retourne chanter régulièrement. Des succès aussi gros que furent les Élucubrations, mais en Italie et en italien.
Il y a une chanson qui s'appelle Pietre.
Pietre, La Tramontana, Taxi, Cosa hai messo nel caffè.
Mais au départ, Pietre, c'est une chanson qui est mythique, qui a même à l'époque des Brigades Rouges été repris presque comme un hymne symbolique.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est une chanson qui a beaucoup marqué l'Italie, et quand il y a eu l'époque des Brigades Rouges, les années de plomb, comme ils disaient là-bas, elle était tellement fataliste, cette chanson,
Qu'est-ce qu'elle racontait?
C'était très très simple. Que tu sois beau, que tu sois laid, que tu sois riche, que tu sois pauvre, quoi que tu fasses, on te jettera des pierres. Ça sera toujours comme ça, quoi. Et lorsqu'ils étaient, ils s'étaient résignés à cette violence qu'il y avait dans le pays à l'époque, et cette chanson était devenue vraiment, elle est rentrée dans l'inconscient collectif, dans la mémoire collective des Italiens. Et lorsque je vais en Italie, ça m'arrive encore récemment, parce que tous nos films passent en Italie sur la Rai 2, et lorsque je vais en Italie, il arrive souvent que dans un restaurant où il y a un orchestre, à peine je rentre, c'est tout c'est bon, et ti tirano le pietre, aussitôt qu'ils me reconnaissent, ils jouent cette chanson.
Et alors, vous avez participé au Festival de Sanremo, vous n'avez pas gagné, c'était Claudio Villa qui a gagné cette année, là, mais vous avez eu 11 points, vous avez fini 8e, mais c'est une année particulièrement dramatique, car c'est 1967, et c'est l'année où Luigi Tenco, soutenu par Dalida, s'est suicidé.
Voilà, c'est ça.
Luigi Tenco. Vous avez vécu ça?
À l'époque, on était deux artistes, un italien et un étranger pour, à chanter la même chanson, à deux moments différents de la soirée, et une chanson était chantée à un moment dans la soirée par Dalida, et l'autre par Luigi Tenco, qui devait être l'auteur de la chanson, je pense.
Oui, oui.
Et il a été tellement désespéré de pas aller en finale, de pas être choisi pour la finale, qu'il s'est suicidé dans la nuit. Quoi. C'est vrai, moi j'étais dans l'hôtel, j'étais dans le même endroit, quoi. Et j'étais en plein milieu de ce drame, et Dalida avait très mal, là, avec Dalida, elle avait très 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 mal réagi, quoi. Je sais qu'elle a une tentative de suicide dans les mois qui ont suivi, c'était...
Mais bien sûr, parce qu'elle était la maîtresse de Luigi Tenco, il devait se marier, elle était venue à Sanremo pour le soutenir, ouais. Et il avait un peu abusé des médicaments et de l'alcool, ouais, avant le spectacle, et il a totalement raté sa prestation.
À l'époque, Sanremo, c'était un truc immense pour les Italiens. Ça l'est moins maintenant, ça existe encore, mais à l'époque, c'était immense. Le chanteur italien qui ratait sa prestation à Sanremo, ben, son année était ratée, quoi. Et peut-être même sa carrière était finie, quoi. Et c'était, pour moi, ça a été, je m'amusais parce que j'étais pas en compétition. Je m'en fichais de gagner. Par exemple, l'année suivante, j'ai été, troisième ou quatrième ou cinquième. Mais dans la semaine qui a suivi, ma chanson était numéro 1 en Italie, des ventes, un succès gigantesque.
C'était la Tramontane.
La Tramontane.
Qu'on a un peu entendu en France, mais beaucoup moins qu'en Italie.
Voilà.
Est-ce que vous savez que le festival de Sanremo a servi de modèle au Grand Prix Eurovision? Quand le Grand Prix Eurovision a été créé en 56, on s'est inspiré de ce qui se passait à Sanremo au casino municipal depuis 1951.
Ah, c'est bien possible, parce que c'était une institution. À Sanremo, on était, ce qu'on chantait, on était vu par toute l'Italie. Toute l'Italie, mais en plus, beaucoup de pays d'Europe, tout jusqu'en Amérique du Sud, partout. Sanremo, c'était un succès énorme, pas seulement européen, c'était mondial.
Alors ensuite, après Sanremo et quelques chansons, vous changez de look. Antoine, on vous découvre avec des très beaux costumes, des cheveux plus courts, une petite moustache. Et cette nouvelle tenue, vous la devez à Claude François, semble-t-il.
Oui, c'était amusant. Moi, je portais plus de chemise à fleurs à l'époque. Ça, c'était bon, c'était passé, ça m'avait passé. Et puis un jour, Claude François me dit, on était amis avec Claude, et il me dit, dis donc, j'ai un contrat avec un couturier, là, je crois que c'était de la maison Balmain, et qui s'était associé avec Bayard, les vêtements Bayard, et dit, il y en a une marque Podium, et je pose pour eux, ils me fournissent des costumes depuis des années, mais j'en ai marre de le faire, tu veux pas me prendre la suite? Je dis pourquoi pas. Moi, j'ai rencontré les gens et pendant 3-4 ans, ils m'avaient habillé. Alors j'avais des costumes bleus, jaunes, verts. Je me faisais faire des costumes à volonté. C'était drôle. Et à Sanremo, quand j'ai chanté l'année suivante une chanson qui s'appelait Taxi, j'avais une queue de pie. J'avais un vêtement de soirée, une queue de pie, et je chantais avec une danseuse en longue robe blanche. On jouait les Fred Astaire.
Alors, vous avez fait ensuite l'Olympia dans des somptueuses tenues, et vous avez engagé celui qui était à l'époque le photographe d'Edith Piaf, Hugues Vassal, et il vous a dit, mais bon, qu'est-ce qu'on fait pour les télégrammes? Et
ah ça, oui, ça vous a surpris. L'histoire des télégrammes. C'était un Olympia en 69, et mon attaché de presse me dit tout d'un coup, ben voilà, je m'occupe des télégrammes. Je peux faire des télégrammes. Et je rentre dans la loge, le jour du truc, et je vois télégramme de Frank Sinatra, de tous les plus grands artistes du monde qui m'avaient envoyé des télégrammes. C'était totalement faux, c'est lui qui envoyait.
C'était une tradition.
L'attaché de presse, il envoyait des faux télégrammes signés Frank Sinatra, signés Barbara Streisand. C'était complètement... Mais c'était amusant. C'était une époque assez folle. Oui. On s'est beaucoup amusé.
Alors, à propos de télégramme, c'est beaucoup plus loin, c'est au début des années 80. Jean-Pierre Darras et Daniel Secaldi montent un spectacle dans ce qu'est le Comédia aujourd'hui à Paris, l'Eldorado, vieux théâtre parisien, et la première est annulée. Et le producteur envoie donc 1000 télégrammes au tout Paris pour annoncer l'annulation. Seulement voilà, le producteur était un peu escroc, et il donne un autre numéro de téléphone, et on ne vérifie pas, et la dame s'est retrouvée avec 1000 télégrammes à payer. Alors il y a eu des plaintes, un procès pendant des années. Ça, on peut pas imaginer ça aujourd'hui.
Oui, bon. Oh, il doit s'en passer de belles dans le jour aussi.
Vous avez failli chanter avec Brigitte Bardot, Antoine.
Oui, un jour, on me propose de chanter avec Brigitte Bardot. C'était une émission qui voulait pas de moi. Une émission très grande à l'époque, Les Carpentiers.
Oui, ils voulaient pas de vous, pourquoi?
Ah non, ben, je suis jamais passé, quelque part, je sais pas, j'ai jamais su pourquoi réellement, mais ils m'avaient jamais invité, et un jour, je reçois un coup de téléphone de l'équipe des Carpentiers disant, écoutez, on peut pas faire autrement que de vous appeler parce que Brigitte Bardot ne veut pas faire son émission, ça s'appelait numéro 1 ou je sais pas quoi, Brigitte Bardot, sans vous.
Vous la connaissiez, Brigitte Bardot?
Je l'avais croisée 3 fois. Je l'avais cité dans une de mes chansons, Votez pour moi, et vous citez Brigitte Bardot et Gunther Sachs à l'époque.
Qui était son mari à l'époque.
Qui était son mari, et ils me disent, ah non, ben elle veut pas le faire sans vous. Du coup, on a travaillé à une émission où elle voulait chanter, j'avais repris une opérette Dédé, et elle voulait chanter une scène d'opérette, et elle voulait le faire avec moi. Et puis, en fait, l'émission s'est jamais faite, parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, et on avait été assez liés, j'étais invité chez elle à Méribel, à Courchevel, non, est-ce que c'était peut-être à Méribel, il me semble, et puis ensuite, j'ai retrouvé, quand je suis parti en bateau, quelques années plus tard, elle m'a téléphoné, viens, passe me voir à la Madrague, et c'était vraiment un grand souvenir, j'étais avec l'architecte, avec un grand coureur...
Un coureur de jupons, non?
Un grand navigateur, Marc Pajot, Marc champion olympique, et on est arrivé en bateau, avec mon premier bateau, dans la baie de la Madrague, là, dans le golfe de Saint-Tropez, à la Madrague, et Brigitte Bardot est venue nous accueillir, seins nus, à l'étrave de son Chris Craft, c'était... assez impressionnant comme image. C'était une des dernières images que j'ai eues de la France avant de partir naviguer en solitaire autour du monde.
On peut avoir de plus mauvaises images de la France. Alors, la France, c'est le pays de l'opérette, et vous parliez d'une opérette, Dédé, et c'est vrai que vous avez monté dans les années 70 une opérette qui était une opérette d'Albert Wilmets, grand auteur des années 30, qui s'appelait Dédé, qui avait été créée par Maurice Chevalier en 1921. Vous l'avez monté en tournée, et puis ensuite à Paris, au Théâtre des Nouveautés. Ça aussi, c'est inattendu de votre part, Antoine.
Ah oui, mais à l'époque, il n'existait pas du tout les musicals. Ce qu'on appelle les comédies musicales maintenant, quoi, les grands spectacles musicaux comme Eddie Commandement, comme Robin des Bois et tout ça, ça n'existait pas du tout. Il n'y avait aucun débouché pour aucune façon de réaliser d'autres rêves, de chanter, danser, jouer la comédie. Alors j'ai dit, bon, je vais le faire moi-même. Puis il n'y avait personne qui écrivait des choses pour des spectacles comme ça. Alors j'avais cherché dans les grands succès du passé, comme j'adorais Maurice Chevalier, j'adorais cette chanson « Dans la vie, il ne faut pas s'en faire ». Eh bien j'avais monté à mes propres frais, ça m'a coûté beaucoup d'argent, mais je me suis bien éclaté.
Et d'ailleurs, pour votre information, au départ, elle s'appelait pas Dédé, cette comédie musicale. L'auteur avait cherché des titres. Alors, il voulait un titre de magasin de chaussures. Il y avait Au chaboté, à vos pieds, à la botte de Nevers. Et finalement, c'est le diminutif du personnage qui s'appelle Robert, qui est devenu Dédé.
Voilà, Dédé, parce que ça, ils avaient fait affaire avec les chaussures André, à l'époque.
Oui.
Ils avaient fait, à un moment, ça devait s'appeler Raoul. Et puis, ils avaient pas fait affaire avec Raoul, les chaussures Raoul. Donc, ils avaient fait affaire avec les chaussures André. Et moi, 50 ans plus tard, quand j'ai repris cette... je m'étais fait sponsoriser par les chaussures André.
Eh ben voilà, c'était pas pendant la semelle des 4 jeudis, mais c'était autre chose. Antoine, on va parler d'une autre date beaucoup plus récente dans quelques instants, le 3 octobre 2016, et ça je suis certain que vous savez à quoi ça correspond. A tout de suite sur Sud Radio.
16h-17h, Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Antoine. Elle réveille vos souvenirs, cher Antoine, mais aussi des souvenirs chers aux auditrices et aux auditeurs de Sud Radio qui connaissent vos chansons, mais qui connaissent aussi vos livres. Car le 3 octobre 2016, c'est la sortie d'un livre, un livre de plus, Escale en Polynésie, chez Gallimard. Alors, les livres, c'est aussi une chose qui vous tient à cœur en même temps que les chansons et le bateau, Antoine.
Ben, mon cher Jacques, vous avez été présent, plus que présent, lorsqu'est née la collection Il était une fois, puisqu'on on avait un projet sous le même titre de tourner des films.
Oui, c'est vrai.
Il était une fois, c'était en 1987,
bon, d'accord,
80, okay. 87 par là, d'accord, à peu près. Et puis, ça s'est pas fait. Et j'étais amené à rencontrer Gallimard. À l'époque, c'est mon premier livre chez Gallimard. Et la série Il était une fois a commencé. Et ça a donné naissance non seulement à des livres, mais à tous les films que j'ai réalisés depuis, à de très nombreux voyages. Et aujourd'hui, pour la première fois, donc, ce mois-ci, on publie un livre, toujours chez Gallimard, avec une fidélité, avec la même directrice depuis toujours et tout, et un album de photos, dont les photos faites par ma compagne Francette et moi-même, couvrent toutes les îles de Polynésie française, vraiment toutes les îles, et notre but, c'est vraiment de montrer la beauté de cette région. C'est un livre qui se penche avant tout sur la beauté des paysages, la beauté des champs, la beauté des fleurs, des plantes, des oiseaux. C'est un pays de rêve. Et c'est là que je passe la plus grande partie de ma vie. Donc j'ai envie de le partager. Je le partage en livre, je le partage en film, puisque j'ai réalisé également un film sur la Polynésie. Actuellement, il y a depuis ce jour où nous avions travaillé ensemble à ce projet, j'ai réalisé à peu près une trentaine de films, trentaine de documentaires et une bonne quinzaine de livres, quoi. Et la Polynésie a toujours été très présente.
Alors, ce qui est étonnant, Antoine, quand vous êtes parti en 74 naviguer, faire votre premier tour du monde, tout le monde a dit oui, il revient dans 15 jours, il sera là dans un mois au maximum. Personne n'imaginait que aujourd'hui, vous feriez des livres et des films se rapportant à un pays où vous passez 8 mois par an.
Voilà, ça fait 42 ans que j'ai quitté, 42 ans à peu près jour pour jour, que j'ai quitté la France sur un bateau, mais je suis toujours revenu régulièrement, au moins une fois par an, pour présenter d'abord des chansons, comme Touchez pas à la mer, et puis des livres, des récits de voyage, et puis des albums photographiques, et puis des films. Donc,
voilà. Alors, au départ, votre première croisière, vous l'avez effectuée à plusieurs, et ça n'a pas marché. C'était bien avant tout ça, Antoine.
Voilà, on avait fait une croisière avec des copains. C'était sympathique, mais ça n'avait pas d'avenir possible, parce que j'avais envie de partir loin, quoi. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que c'était seul qu'il fallait le faire. Et c'est ce que j'ai fait, et j'ai voyagé, donc ça fait 42 ans que je voyage, généralement seul, avec ma compagne parfois. Là, cette année, par exemple, je viens de quitter, j'ai quitté la Nouvelle-Zélande avec ma fille Vaimiti et son compagnon, qui sont tous les deux chefs cuisiniers. Ils sont tous les deux chefs cuisiniers, ils avaient travaillé en Australie, et puis ils rentraient travailler à Bora Bora, comme dans un palace de Bora Bora, ils ont travaillé pas loin d'ici, au Bristol, et puis là, ils partaient à Bora Bora. Alors donc, on a fait la traversée ensemble, depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'en Polynésie, et...
Avec une bonne cuisine, je
voilà,
suppose.
Voilà, je me suis régalé d'un bout à l'autre. Et on est arrivé en Polynésie, et ces voyages, cet endroit que j'affectionne particulièrement, que j'ai voulu raconter aussi bien dans ce livre, que dans les films, et je voulais signaler que à partir du 3 novembre jusqu'à la fin de l'année, je suis en tournée de conférences avec Connaissance du Monde. J'ai une soixantaine de conférences un peu partout. Si vous cherchez sur le site, notre site internet à nous, vous trouverez toutes les dates sur antoine.tv et une soixantaine de conférences pour montrer les merveilles de la Polynésie aux spectateurs. Je pourrais leur dédicacer ce livre en particulier.
Et aussi un coffret DVD anniversaire.
Voilà.
Avec les films. Alors, conférence, Connaissance du Monde. Bon, c'est étonnant de voir Antoine dans cet univers. Ça a commencé en 1945 et c'est une certaine Camille Kiesgen qui a créé Connaissance du Monde. Et le premier conférencier a été Paul-Émile Victor.
Voilà. Je crois qu'au début, l'idée avait été suggérée par le commandant Charcot.
Oui.
Grand explorateur des pôles.
Qui est venu avec Paul-Émile Victor
voilà,
à la première.
C'est ça. Et c'est Paul-Émile qui a présenté la première série de conférences, quoi.
Et c'était la traversée du Groenland en février 43.
Eh oui.
Et ça a été un tel succès qu'ensuite, c'est devenu une institution.
Voilà. Et il y a une dizaine d'années, moi, ma première conférence Connaissance du Monde, j'y ai assisté, j'avais 10 ans. Il y a 20-25 ans à peu près.
Oui, à peu
près. J'avais 10 ans et mon père nous avait emmené voir un film sur la Polynésie. Et j'ai encore le livre que le conférencier avait dédicacé à mon père. Quoi.
Vous ne pensiez pas qu'un jour vous feriez...
Ah non, je pensais pas du tout. Et il y a 10 ans, j'ai reçu un coup de téléphone de Connaissance du Monde me proposant de venir faire une série. J'ai dit bon, on va essayer. Et ça fait 10 ans que ça dure. J'ai présenté un film sur la Nouvelle-Calédonie, la Tahiti, les îles de l'océan Indien, et maintenant donc ce film sur la Polynésie.
Et au départ, c'était des photos qu'on projetait sur un écran, des diapositives.
Oui, des diapositives, mais très longtemps ça a été des films 16 mm. Chaque conférencier avait son projecteur. Maintenant, non seulement c'est devenu numérique en haute définition, mais en plus on utilise, c'est extraordinaire, ça se passe très souvent dans des cinémas, dans les multisalles, les multiplex, quoi, dans des écrans où on projette Le Seigneur des Anneaux ou La Guerre des Étoiles, quoi. Et nous, on présente nos films sur des écrans de 15 mètres de base parfois, et ça tient la route, c'est formidable. Je suis fasciné de voir les gens accrochés pendant 2 heures à suivre mon voyage.
Alors, dans Escale en Polynésie, vous évoquez des personnalités du monde de la voile qui vous ont marqué, que vous avez croisé, à commencer par Paul-Émile Victor. Vous l'avez rencontré, Antoine?
Bien sûr, je le connaissais déjà, puis j'ai rendu visite dans son île à Bora. Il avait une petite île à Bora Bora, dans le lagon de Bora Bora, et je suis allé souvent le voir là-bas. Il y a aussi d'autres personnalités, un grand navigateur, Bernard Moitessier.
Alors justement, Bernard Moitessier, c'est un personnage incroyable. Au départ, il fait une course autour du monde, la première.
Voilà.
Il a tout pour la gagner, ça marche pas.
Voilà. Il devait gagner, il était sur le point de gagner, et tout d'un coup, il dit non, je remonte pas en France, je retourne pas en Europe parce que je veux sauver mon âme, je pars, et il est parti pour la Polynésie. Voilà.
C'est incroyable.
Et il a vécu la plus grande partie du reste de sa vie en Polynésie. Il a écrit des livres mythiques et qui ont beaucoup d'inspirationnel, enfin beaucoup d'inspiration pour des navigateurs, et comme voilà. Et mais il y a aussi d'autres personnes, il y a Gauguin bien sûr, il y a Brel, il y a Melville, il y a dans le livre, il y a le souvenir de beaucoup de gens qui ont marqué certaines des îles de Polynésie.
Alors Jacques Brel, vous l'avez rencontré à la sortie de la projection des Risques du métier,
voilà,
un film que vous avez tourné, et vous l'avez félicité et vous avez dit j'ai pleuré.
Bah oui, j'avais pleuré, c'était un film. Moi je pleure beaucoup au cinéma. J'adore le cinéma. Dans notre bateau, on regarde des films régulièrement. On a un écran, un projecteur, et on se projette des films sur un écran, pas de 15 mètres de base, mais qui fait bien 1,50 m de base, quoi. Et on adore le cinéma.
Vous vous souvenez ce que Brel vous a répondu quand vous avez dit que vous aviez pleuré en voyant son film?
Non, je me souviens pas réellement.
Et ben, il a dit, ah bon, vous avez pleuré parce que vous m'avez trouvé tellement mauvais.
Ah oui, c'est ça. Oui, il avait pensé ça.
C'était pas le cas. et vous continuez à rencontrer des tas de gens méconnus ou inconnus dans vos tours du monde, Antoine. Est-ce qu'il y a encore des gens heureux qui vivent tranquillement, à l'abri de tout?
Ah bah bien sûr, on est quelques milliers à naviguer comme ça sur des bateaux pour des durées qui peuvent être de quelques années ou de la vie entière, quoi. Il y a beaucoup de gens qui vivent. En Polynésie, c'est un bon endroit pour ça, mais également là cette année, depuis 2 ans, j'ai fait une grande boucle jusqu'à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et partout on rencontre des navigateurs. Ça c'est un monde. Assez discret, on fait pas de vagues, c'est le cas de le dire, mais il y a beaucoup de gens qui vivent un peu un voyage comparable au mien.
Dans quelles circonstances avez-vous décidé, Antoine, de devenir navigateur? Est-ce que c'est parce que vous en aviez assez du monde superficiel de la chanson?
Il y avait certainement de ça. Bon, ça me plaisait, la chanson, mais c'était très limité, quoi. On voyait du monde, on voyageait, mais on ne voyait que le studio de télévision, l'aéroport, l'hôtel. Bon, je voyais pas me contenter de ça, quoi. Et quand le bateau à voile s'est présenté, c'était une clé, en particulier les livres de gens comme Gerbault, mais surtout comme Bernard Moitessier.
Ça vous a marqué, ce livre-là.
Voilà, ces livres m'ont inspiré, m'ont montré que le bateau, ça pouvait être non pas un truc pour faire des compétitions, mais pour emmener sa maison, emmener sa vie avec toi sur son dos, avec soi, comme une tortue, quoi. Emmener sa maison avec soi. Et vraiment une clé de liberté, quoi.
Et finalement, la liberté, c'est tout ce qui a guidé votre vie, Antoine.
Cette émission, c'est les clés d'une vie. Et une des clés que j'ai trouvées, ça a vraiment été le bateau, quoi. Depuis 42 ans, je vous le disais, 42 ans que je voyage comme ça. Et il n'est pas question que je change. J'ai un bateau qui a 27 ans, qui est en parfait état, qui est ma maison, notre maison. Je voyage parfois avec ma compagne française. On a fait ensemble pratiquement toutes les photos de ce livre. Et puis, je voyage aussi seul. Et puis là, avec mes enfants de temps en temps. C'est une vie navigante qui me plaît beaucoup.
Et parmi les rencontres très insolites que vous avez faites en bateau, mais à terre, c'est Salvador Dali.
Ah, Salvador Dali, c'était une rencontre chez lui. Chez lui, déjà, quand j'ai commencé à chanter, on m'avait invité à participer à un portrait mou. Un portrait mou de lui que tournait Jean-Christophe Averty. Et Dali avait dit, oui, il m'avait invité parce qu'il me trouvait archangélique.
Ça veut dire quoi, ça?
Archangélique. Et Antoine, il y a les senteurs comme ça, sont angéliques et même archangéliques, car ils ressemblent aux anges que l'on voit. C'était génial. Et je l'ai retrouvé souvent. Il est venu me voir en spectacle. Il est venu me voir en spectacle à la Tête de l'Art. Il m'avait invité au Meurice.
Et lorsque Meurice, où il descendait quand il était à Paris.
Voilà. Et lorsque je suis parti en bateau, eh bien, la première escale que j'ai faite en quittant la France, après avoir quitté Port-Vendre, je crois, j'ai contourné le Cap Creux, la frontière avec l'Espagne, et je suis allé à Portligat, chez lui, et j'ai vu arriver Gala, donc sa compagne à l'époque, sa femme, qui m'a, en bateau à rame, là c'est pas très radiophonique, je fais les gestes de la, en train de ramer sur le bateau, et disant, le maître vous attend à déjeuner. Voilà, et j'ai quitté la France, première escale, c'est chez Dali, pour un déjeuner assez inoubliable.
C'est-à-dire, Antoine?
Ah ben, c'était dans sa maison incroyable, il y avait entre autres, dans le jardin, il y avait un chameau, un chameau en terre ou en carton pâte, et il y avait un trou dans le ventre du chameau, et on regardait, on voyait la télévision à l'intérieur. C'était, voilà.
Il y avait ça prouvait qu'il bossait beaucoup, c'est
tout. Il bossait beaucoup, voilà. C'était, et puis tout était, ce qu'on mangeait était très surprenant, et puis c'était très amusant. J'ai été très triste quand, quelques années après, il a disparu.
En tout cas, vous avez plein de souvenirs, Antoine. On va en retrouver beaucoup dans Escale en Polynésie. Vous allez repartir, mais pour retravailler sur de nouveaux films, sur de nouveaux livres. Et la chanson là-dedans, Antoine?
Oh, la chanson a toujours une place, mais depuis que l'image m'a pris par la main, m'a attrapé par le coin de l'oreille, je suis beaucoup plus intéressé par l'image que la chanson. La chanson, ça me semble un univers un petit peu étriqué, quoi. Je n'en vis pas. J'admire des gens qui ont fait une vie, comme on parlait de Bob Dylan, qui fait une tournée qui ne finit jamais, l'éternel Never Ending Tour, Cabrel, ou bien des gens qui ont consacré leur vie à la chanson. Moi, j'avais envie d'un univers beaucoup plus vaste, quoi. Alors la chanson reviendra. Il y a des chansons. Je fais de temps en temps quelques chansons. Je referai encore quelques petits spectacles, mais le voyage, les films, l'image, la photo, c'est beaucoup plus intéressant.
Et ben en tout cas, vous nous avez passionné avec vos souvenirs. Antoine, merci. Je rappelle que Escale en Polynésie est publié chez Gallimard, un magnifique album de photos qui vous fera rêver, et même à l'aube de l'hiver qui nous attend, ce sera un bon moment de soleil et de joie dans les cœurs. Dans quelques instants, il y a quelqu'un qu'on va retrouver, que les auditeurs de Sud Radio connaissent bien, c'est Valérie Expert. Alors elle analyse et disserte chaque jour sur les élucubrations des hommes politiques dans des d'experts. Je vais lui laisser le micro et nous on se retrouve demain pour de nouvelles clés d'une vie à 16h. Merci Antoine d'avoir été avec nous.
Au revoir mon cher Jacques, à bientôt.
À bientôt et à demain pour nous.
Et oyez.